Du jeudi 20 mars au mercredi 2 avril 2003. Dar es Salaam. Attention, Wazungu. Notre pays est dangereux. Homme blanc, en swahili. Wazungu, Wazungu. Que ce soit à l'est ou à l'est du continent, les enfants sont toujours là et manifestent spontanément leur étonnement et leur curiosité devant le passage de deux blancs à vélo. Sitôt sortis de l'aéroport, nous en faisons l'expérience et apprenons notre premier mot de swahili, Wazungu. Nous comprenons vite que cet attribut nous poursuivra pendant toutes nos pérégrinations en Tanzanie et au Kenya. Il nous rappellera que, quelle que soit notre volonté de nous intégrer, quels que soient nos efforts pour nous fondre dans la masse et adopter les habitudes locales, nous resterons, premier abord, les Blancs, avec tout ce que cela représente en termes de richesse et de savoir supposé, ainsi que d'autorité conférée. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, nous étions surnommés Toubab ou Toubabou. De ce côté du continent, nous sommes les Wazungu. Entre les deux, près de 2000 kilomètres. Ces 2000 kilomètres, nous les avons parcourus en avion. Cyrano et Noisette, bardés d'autocollants fragiles, ont pris place dans les soutes en compagnie des valises et paquets encombrants. Diego et moi, nous sommes installés confortablement dans les larges fauteuils des passagers, choyés par de charmantes hôtesses de l'air. En moins de 8 heures, nous survolons la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Kenya. La notion de kilomètres parcourus perd son sens. Depuis maintenant 10 mois, que nous gagnons quotidiennement à la sueur de notre front quelques centimètres sur les cartes, nous venons de tracer d'un seul trait l'équivalent de 8 cartes aux 500 millièmes. Une telle distance, parcourue en si peu de temps, nous donne le vertige. Comment comprendre le pays où nous allons être parachutés sans l'avoir auparavant apprivoisé? Jusqu'à maintenant, la descente vers le sud s'est faite progressivement. D'abord l'Espagne, puis le Maroc, la traversée du Sahara occidental, la Mauritanie, pays de transition entre le Maghreb et l'Afrique noire, la découverte de l'Afrique subsaharienne avec le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, un saut de puce pour survoler le Nigeria, nous a amenés au Cameroun. La continuité du parcours rend plus facile la compréhension des différentes ethnies, géographiques, religieuses. Les voyages à vélo font vivre les changements en douceur. Ils laissent le temps à l'esprit de les assimiler. A contrario, notre trajet en avion jusqu'à Dar es Salaam nous précipite violemment au cœur de l'Afrique anglophone. Les Wazungu débarquent à Dar es Salaam. Un débarquement par la voie des airs dans une ville portuaire animée. Dar es Salaam, située sur la côte est de l'Afrique, est une porte ouverte sur l'océan Indien. Le centre économique de la Tanzanie, qui a tout d'une capitale sauf le nom. À l'époque coloniale, quand la Tanzanie s'appelait encore Tanganyika, les Allemands avaient préféré Dar es Salaam à Bagamoyo comme capitale. Ils avaient alors transféré l'ensemble des administrations à Dar es Salaam, dont la baie était plus propice à l'amarrage des bateaux à vapeur. Puis, sous la direction du très populaire président Nyerere, le gouvernement postcolonial décida en 1974 de faire de Dodoma, ville située à l'intérieur des terres, la nouvelle capitale de la République unie de Tanzanie. Pour autant, les administrations et sièges d'organisations nationales ne migrèrent pas une nouvelle fois et sont toujours à Dar es Salaam. Parmi eux, le bureau de la Tanzanian League of the Blind, TLB, avec laquelle nous sommes en contact pour le voyage en tandem. Son président nous a donné rendez-vous directement dans les locaux de l'association. Quelques bruyants coups de klaxon ont vite fait de nous remettre sur la bonne voie. « Ici, on roule à gauche, Wazungu !» Notre arrivée coïncide avec l'Assemblée générale de la TLB, qui se déroule sur plusieurs jours dans un hôtel de Dar es Salaam. C'est une opportunité qui nous permet de faire rapidement connaissance avec les responsables de l'association, mais en même temps, une contrainte qui rend nos interlocuteurs peu disponibles pour se pencher sur la mise en place du Tour de Tanzanie en tandem. La TLB est fortement soutenue par une importante fondation caritative suédoise, une fondation qui dispose de larges moyens financiers et qui fait preuve d'une organisation toute nordique. Des critères que la TLB nous attribuait par le seul fait que nous nous étions présentés comme une association française. J'imagine donc leur surprise en nous voyant débarquer, âgés d'à peine 22 ans, fondateurs d'une association qui ne compte que 2 membres, avec pour toute assistance une trousse de réparation et une pharmacie se trouvant dans la sacoche arrière gauche de Noisette. Je peux comprendre leur incompréhension quand nous déclinons la chambre qu'ils nous ont réservée dans un complexe touristique luxueux. J'imagine les réticences naissantes quand nous leur décrivons notre manière de voyager au contact des populations, logeant chez les personnes que nous rencontrons, laissant toute sa place au hasard. Nous nous interrogeons sur la tournure que prennent les événements. Vont-ils finalement nous faire confiance? Vont-ils accepter de proposer à leurs membres de participer à cette aventure? Nous racontons nos 9 expériences précédentes dans les pays du Maghreb et de l'Ouest africain. Nous devons convaincre, lever le doute qui plane quant à la sécurité du projet et des copilotes que nous prenons sur notre responsabilité. Les responsables de la TLB nous expliquent que leur pays est dangereux et que nous ne pouvons pas aller de village en village sans prévoir où nous logerons. Qu'il nous faut préférer les infrastructures touristiques sûres et adaptées à l'accueil des voyageurs, au logement chez l'habitant, risqué et incertain. Nous souhaitons nous adapter aux volontés des associations avec qui nous sommes en contact et des copilotes avec qui nous roulons. Jusqu'à un certain point cependant. En Mauritanie et au Mali, nous avions refusé de payer les athlètes qui participaient à l'aventure, estimant que toute rémunération aurait faussé la relation que nous avions avec nos copilotes et dénaturé le projet. En Tanzanie, nous refusons d'organiser un voyage de tour opérateur. Nous préférons proposer à 2 copilotes de partir à la découverte de l'arrière-pays tanzanien et de ses habitants. Face au scepticisme des responsables de la TLB, nous leur demandons simplement de faire passer le message auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Utopistes, idéalistes, nous le sommes certainement, inconscients peut-être un peu, mais surtout déterminés et assoiffés de découvertes. Votre pays est dangereux? À Hakuna Matata, il n'y a pas de problème, nous ferons attention. Zita, un membre actif de la TLB, nous accueille chez elle le temps que les volontaires se manifestent et que les préparatifs du départ se terminent. Elle habite dans les locaux d'une école primaire avec Ilaria, sa fille, et une nièce qui l'aide dans les tâches ménagères. Quelques maisons en dur autour d'une rue de sable. Tous les voisins se connaissent, ils vont remplir leurs bassines d'eau, même robinet, et partagent le même espace sanitaire. 4 murs de terre un peu à l'écart au pied d'un grand arbre. L'agencement de ces maisons favorise les échanges. Nous sommes loin de la solitude des métropoles occidentales. Ce quartier ressemble plus à un village, ses habitants à une famille élargie. Notre arrivée dans ce quartier populaire ne passe pas inaperçue. Après l'étonnement de voir des Wazungu partager leur lieu de vie, vient la curiosité des voisins qui rendent visite à Zita et posent des questions sur ses hôtes. Zita, quant à elle, ne change pas ses habitudes et nous intègre du jour au lendemain à son quotidien. La nuit, nous prenons possession de la salle de séjour. Diego et moi dormons alternativement sur les coussins et le sommier du canapé. La journée, la pièce retrouve sa disposition initiale. Nous apprenons les quelques mots de Swahili qui nous permettent de rendre leur salut aux personnes que nous croisons. Salama. Aba Arigani. Bzuri, Asante Sana. Bonjour, ça va bien? Bien, merci beaucoup. Quelques personnes, ayant entendu parler du projet par la TLM, passent chez Zita et demandent à essayer les tandems. Parmi eux, une femme d'une 30aine d'années, n'ayant jamais fait de vélo, s'annonce très intéressée pour participer au périple. Enfin, un équipage mixte en prévision. Nous discutons un moment, une grande motivation l'anime, et lui ferait gravir des montagnes. Nous faisons alors un tour d'initiation d'une 20aine de kilomètres. Elle réalise l'effort à fournir pour synchroniser ses gestes et faire avancer notre moyen de locomotion. Au retour, l'enthousiasme s'est envolé. L'effort lui paraît insurmontable. Devant sa difficulté à pédaler dans le sens conventionnel, nous n'insistons pas. Alors que l'information sur la possibilité de réaliser un tour de la Tanzanie à tandem se diffuse parmi les handicapés visuels de Dar es Salaam, nous enquêtons sur les différents moyens de gravir le mont Kilimandjaro. Depuis l'expérience du Toubkal et du mont Cameroun, nous avons tous deux à l'esprit ce rêve inavoué de marcher sur le toit de l'Afrique. Une pensée onirique toujours présente dès que nous évoquons la Tanzanie. Une image qui s'est précisée quand nous avons survolé le volcan lors du trajet en avion Douala Dar es Salaam, le Kilimandjaro. Un monstre de lave élevé, éruption après éruption, millénaire après millénaire. La couronne de glace qui le coiffe peut tromper sur la chaleur et l'activité de son fort intérieur. Alors que ses entrailles en fusion bouillonnent et ne demandent qu'à s'exprimer, le volcan affiche calme et retenue. Sa grandeur silencieuse a une autorité naturelle sur le paysage qui l'entoure. Sa taille le distingue, son aura le précède. La vue plongeante que nous avons depuis l'avion n'enlève rien à son imposante stature. Nous sommes au-dessus de lui, mais incomparablement plus petits. Nous ne faisons que passer, lui demeure. Ce n'est qu'un au revoir, volcan. Nous comptons bien te rendre visite, et d'une manière plus juste, par la voie de terre. Ali vient à son tour chez Zita. Il travaille non loin de là, à l'imprimerie nationale Braille. Le vélo à deux, il connaît, car il a pratiqué le buddy bike, une bicyclette trafiquée au niveau du pédalier, du tube de selle et du guidon, qui permet à deux personnes d'avancer côte à côte. Il faut avoir un bon équilibre et un partenaire de la même corpulence pour arriver à avancer droit. Le tandem lui paraît beaucoup plus facile et bien plus pratique pour se faufiler dans les rues encombrées du centre-ville. Il se voit très bien parcourir à tandem les routes de Tanzanie et se rendre jusqu'au pied du Kilimandjaro. À 40 ans, il se dit qu'il n'aura peut-être plus l'opportunité ou la forme suffisante pour faire ce périple et cette ascension. Il peut prendre des vacances et se libérer facilement. En un après-midi, sa décision est prise. Ali propose à Sefou, un autre membre de la TLB, de se joindre à nous. Sefou est de 10 ans le cadet d'Ali et de 10 notre aîné. Une carrure d'athlète, un visage particulièrement expressif, des sourires radieux, parfois suivi d'un durcissement des traits et de tics nerveux. Un tempérament qu'il nous faudra apprendre à connaître, à anticiper. Jusque-là, l'humeur reste au beau fixe. Sefou semble emballé par l'expédition que nous lui proposons de faire. Il n'a jamais eu l'occasion de voyager à travers son pays. Se rendre à tandem jusqu'au pied du Kilimandjaro et poursuivre l'ascension à pied le motive. Quelques kilomètres dans les rues de Dar es Salaam et des alentours finissent de le convaincre. Quelques mots échangés en swahili avec Ali précèdent son verdict. Tous deux sont prêts à nous accompagner, malgré les mises en garde de la TLB concernant le manque de sécurité de notre organisation. À peine 4 jours après avoir fait la connaissance d'Ali et 2 jours après notre première rencontre avec Sefou, nous prenons le départ. Il est 8h30, l'heure à laquelle les enfants rentrent en classe. Quelques élèves se sont regroupés devant les tandems. En uniforme, chemise blanche, bermuda foncée, yeux grands ouverts, ils suivent chacun de nos gestes, touche finale des préparatifs de départ. Des gestes qui seront répétés chaque matin durant le périple. Vérification de la quantité d'eau emportée et de la bonne fixation des casques de nos copilotes. Check-up rapide de la mécanique de Cyrano et Noisette. Transmission, frein, pression des pneus, tension des rayons, arrimage des sacoches. Salutations aux autres qui nous ont accueillis. 9h. Par respect pour les instituteurs, il nous faut vraiment partir. Les élèves continuent à nous observer. Ils ne bougeront pas d'ici tant que nous n'aurons pas disparu au coin de la rue. Nous partons plein ouest, direction les steppes Maasai, via Mlandizi, Mbala, Chalinze. À Chalinze, nous laisserons la route principale qui mène à Dodoma pour prendre plein nord, en passant par Msata, Mkata, Segera. De Segera à Moshi, ville située au pied du Kilimandjaro, la route en pente douce nous fera progressivement prendre de l'altitude. Une préparation idéale à l'ascension du Kilimandjaro. Sur la carte et dans nos têtes, tous les éléments sont réunis pour réaliser une belle virée.